Je pense que ce qui est intéressant avec Pasteur, c'est que tout le monde lui a donné une définition qui lui est propre. Donc moi, je n'ai jamais appelé Pasteur un tiers-lieu, mais beaucoup de gens lui ont collé cette étiquette. Après, un tiers-lieu, ça veut tout et rien dire aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est la réunion de personnes qui se sentent la liberté d'exercer des activités qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. Et ça, on va le conserver. Donc pour certaines personnes, c'est la nouvelle LMJC, pour d'autres, c'est le nouveau centre social, pour d'autres, c'est pas le lieu du soin. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a peut-être pas qu'une définition, mais que chacun, à partir du moment où il se sent chez lui, peut faire sa propre définition de Pasteur. Donc en ça, c'est un tiers-lieu au sens politique du terme, puisque c'est des gens qui se sentent la possibilité de se rassembler, de s'approprier un espace dans la ville et surtout de participer à sa gestion aussi future.
On peut construire des aménagements futurs avec de futurs usagers. On s'est donc attaché à faire travailler des enfants et des étudiants en architecture. Donc ça a fait l'objet d'un projet pédagogique sur plusieurs mois. Ils se sont vus régulièrement toutes les semaines. Et donc l'idée était de travailler ensemble à la transposition en éléments réalistes de l'imaginaire des enfants. Donc c'est pour ça que vous allez trouver en fait, en dehors des maquettes réalisées par les étudiants en architecture, les éléments premiers qui ont donné vie à ces maquettes, c'est-à-dire les plans d'intention des enfants.
On s'est dit depuis le départ que c'est pas parce que Pasteur rentrait en phase de chantier qu'il devait être fermé au public et surtout fermé à l'application. C'est le lieu du faire. Pasteur, c'est le lieu de l'école hors les murs, l'école buissonnière. On dit toujours que c'est un lieu d'application en dehors des lieux institutionnels classiques. Et du coup, il fallait absolument qu'on fasse de ce chantier un lieu, puisque le chantier c'est d'abord un lieu d'application, un lieu concret qui fait école, un lieu de croisement de savoir-faire entre maîtrise d'ouvrage, artisan, maîtrise d'œuvre, utilisateur, il y a quand même du monde sur le chantier, plein de savoirs qui s'y passent. Et donc là, l'idée, c'était de se dire comment on pourrait continuer à ouvrir à des écoles pour permettre à ce que la commande puisse être aussi donnée à des jeunes qui sortent tout juste de l'école et qui normalement ne pourraient pas répondre à ce sujet. Donc on a réussi à faire en sorte que, par exemple, Pierre Bonnard, designer de l'école des Beaux-Arts, qui a passé son diplôme sur l'aménagement de la future cuisine collective, puisse être engagé par l'agence d'architecture Encore Heureux pour être le concepteur de la future cuisine collective. On a fait en sorte aussi de créer un partenariat un peu long entre l'hôtel Pasteur et l'école des Beaux-Arts et les trois sections art, design et communication en vue de travailler sur des sujets d'aménagement futur. Donc là, on ouvre ce chantier aussi pour montrer où en sont les projets d'aménagement futur du lieu, les projets école. Donc là, les étudiants montrent un peu leurs maquettes, leurs planches de projets, etc., les prototypes qui sont en train d'être réalisés. Ensuite, il y a l'école d'architecture qui est très présente depuis le départ aussi et les étudiants qui ont travaillé avec Gwen Pacotte qui est chargée d'une mission par la direction de l'éducation et de l'enseignement pour créer le futur et du lab au sein de l'hôtel Pasteur. Et donc ensemble, ils ont travaillé avec des primaires sur l'aménagement futur de l'EduLab. Donc l'idée, c'est de se faire un grand chantier ouvert où on continue de se dire qu'il n'y aura pas une finalité dédiée en termes d'aménagement, mais que des étudiants puissent travailler là-dessus.
Sur lequel on va questionner des usages numériques et à visée éducative. Donc pas uniquement dans le cadre scolaire, j'insiste bien, mais vraiment les cultures numériques de chacun et chacune seront ici questionnés éventuellement sous l'angle de la fabrication, sous l'angle de la d'échanges, de questionnements, de travaux pédagogiques hors temps scolaire, sur temps scolaire. Enfin voilà. Pour l'instant, on est en train d'essayer de dresser un peu une typologie des usages futurs. Donc ça peut être des parents qui se questionnent sur l'usage des écrans par leurs enfants, mais ça peut être aussi des enseignants qui ont envie de pratiquer différemment les apprentissages avec leurs élèves. Et puis, tout est encore à imaginer. Donc, j'invite d'ailleurs ceux d'entre vous qui le souhaitent à proposer des projets et si vous avez des envies ou des idées, à nous contacter, puisque...
Ouais, il y a la question de la jeunesse, mais je pense que la jeunesse, elle est perdue aussi si elle est qu'entre jeunes. Donc, ce qui est important à Pasteur, c'est le croisement des âges et des publics et des catégories sociales. C'est là qu'à mon avis, il y a quelque chose qui se passe qui va plus loin que de se dire on est dans l'école avec des gens de notre âge et on suit la même formation. Donc là, je pense que ce qui est fort, c'est ça. Et ensuite, c'est surtout autre chose, c'est de donner accès à la commande à des jeunes qui bien souvent sortent de l'école, ont un diplôme en poche, mais ne savent pas où aller taffer. Là, on le voit, dans la plupart des étudiants de l'école des Beaux-Arts, beaucoup travaillent par exemple en restauration derrière pour gagner de l'argent. Donc, c'est pas parce qu'on a fait aujourd'hui de grandes études et on le sait qu'on trouve tout de suite un travail qui nous correspond. Et donc, on pense que dans des projets comme ceci, comme cette nouvelle forme de lieu un peu hybride, un peu tiers-lieu, on peut redonner aussi du travail à des gens qui sortent de l'école parce que c'est des lieux d'application et de formation très concrets qui permettent d'avoir accès à une commande et peut-être demain, du coup, de pouvoir se dire j'ai fait ça à Pasteur, donc je viens avec ce book-là et je peux dire que j'ai déjà réalisé quelque chose en parallèle de mes études.
Là-bas, c'est fermé. Ok. Et donc là, vous montrez tous les. C'est en vidéoprojection, ils vous montrent tous les projets. Super, ok. Donc là, c'est les projets des designers de l'École des Beaux-Arts qui travaillent sur les lustres, le futur lustre d'accueil de l'école et de l'hôtel à projet. Donc c'est toutes les planches de photos. Enfin, là, il y a un petit proto, une petite maquette et puis les planches surtout de projets. Ok.
Alors, je m'appelle Pierre-Thomas Deillon et je suis étudiant aux Beaux-Arts à Rennes. Et je suis là pour présenter différents projets avec toute ma classe. On a travaillé sur le futur lustre du hall de Pasteur. Alors, déjà, pour commencer, nous, on avait déjà travaillé avec l'hôtel Pasteur l'année dernière. On devait travailler sur le réemploi de tous les matériaux qui étaient à l'abandon suite aux travaux. Et donc, du coup, ils nous ont contactés suite à ça. Et au début, c'était pour faire un mobilier, mais là, donc, c'est pour faire un lustre du hall de Pasteur. Et l'idée, c'était d'unir, en fait, l'hôtel à projet et l'école maternelle, créer une harmonie, créer un espace de convivialité. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun projet qui est choisi. Donc, c'est en cours vraiment de se faire. Il y a un budget qui a été fait par l'hôtel Pasteur pour choisir un des lustres que l'on va peut-être réaliser. Ouais, c'est une opportunité, déjà, d'avoir un projet réalisé en vrai et puis de travailler directement dans le monde professionnel, c'est quand même un truc que tout étudiant rêve de faire, donc non, c'est vachement chouette. Et puis même ça nous permet aussi d'avoir une approche un peu plus professionnelle de comment réaliser un projet, de toutes les étapes aussi de fabrication. Enfin, une fois que le projet sera choisi, la personne qui va gagner va pouvoir vraiment suivre toutes les étapes du projet, donc c'est chouette. Même là, quand il y a des travaux, l'hôtel Pasteur a déjà son identité, donc c'est ce ne sera que mieux pour les gens qui vont y travailler. Non, je pense que déjà d'un point de vue normes, etc., ça va faire un gros changement et puis ça va être beaucoup plus sain pour travailler au sein du bâtiment. Que non, je pense que c'est une bonne chose et je pense que ça va très bien marcher. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir travailler ici, que ce soit des artistes, des photographes, exercer leur profession. Je pense qu'ils vont être dans un cadre encore plus sain, encore plus approprié pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions.
Comment est-ce que tu définirais l'hôtel Pasteur à quelqu'un qui ne connaît pas Rennes et l'hôtel Pasteur ?
Et c'est surtout un hôtel à projet où c'est un endroit en fait qui est où c'est la collectivité en fait qui fait marcher ce lieu et qui par leur travail, par leur expérience, leur travail professionnel exerce et font vivre le lieu. Donc c'est un endroit de d'échange et de convivialité.
Mais là c'est vraiment les étudiants des SAM. Vous raccrochez la visite, c'est ça?
Oui, avec un peu de retard.
Ouais, c'est pas grave.
La ville doit permettre à tout le monde d'être présent. L'espace public, c'est le lieu du croisement, c'est le lieu politique. Effectivement, on assiste aujourd'hui à une normalisation de nos espaces, une normalisation des espaces publics, une normalisation de nos institutions. Mais ça, c'est de la faute à personne, si vous voulez. Les choses en matière de construction se réglementent de plus en plus. Et la ville se réglemente et se norme beaucoup. Et donc, dans ces lieux-là, effectivement, on retrouve une facilité d'accès qui n'existe plus forcément. Quand on va au Musée des Beaux-Arts, on y va pour faire une exposition. On n'y va pas pour faire autre chose. Et donc, quand on n'affilie pas un lieu à un programme prédéfini, on permet justement à d'autres de pouvoir y venir alors qu'on n'était pas censé, par exemple, accueillir du soin dans une ancienne faculté des sciences ou des docteurs qui sortent pour soigner autrement. Donc le non-programme nous permet d'être ouvert au plus grand nombre et de favoriser la rencontre fortuite qui permet le croisement et donc des projets qui nous dépassent, auxquels on n'a pas pensé à l'avance, et la rencontre d'individus qui ne se croisent pas forcément ou dans son quartier, ou dans l'institution, ou dans leur école.
Alors, la cuisine collective,
la cuisine collective, ça va être la cuisine collective de tout l'hôtel à projet. Donc tous les usagers pourront cuisiner ici, comme ça a toujours été aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, il y a une cuisine que vous avez peut-être vue. Ah non,
je m'appelle Pierre Brunier, je suis designer. Donc du coup, moi, j'ai participé à la conception de la future cuisine de l'hôtel Pasteur. Je me suis retrouvé là-dedans parce que je traîne dans Pasteur depuis longtemps. J'ai fait un stage avec Sophie Ricard. J'ai travaillé mon sujet de diplôme aux Beaux-Arts de Rennes. C'était qu'est-ce qu'on mange demain à Pasteur. C'était l'intitulé de mon diplôme et donc du coup dans ce diplôme j'ai imaginé la cuisine de l'hôtel Pasteur. J'ai rencontré les architectes encore heureux qui font la maîtrise d'œuvre du bâtiment et ils m'ont proposé de participer concrètement à la réalisation de la cuisine. Ce qui était important c'est deux parties, c'est formellement qu'on puisse cuisiner tous ensemble et que ce soit pas une cuisine habitée tous les jours mais qu'on puisse quand même cuisiner à 10 et manger à 30. Et deuxièmement, c'est le réemploi. Donc du coup, on a fait l'inventaire des paillasses qui allaient démonter dans le bâtiment et on a recomposé ces paillasses, ces portes de paillasses, ces bouts de matériaux pour refaire une cuisine pour le futur hôtel. J'espère que ça ne va pas trop changer, à part la mise aux normes, etc., que dans la fonctionnalité du lieu, ça sera toujours aussi libre. D'appropriation pour les gens et j'ai hâte de voir la richesse que ça peut créer avec les échanges avec l'école.
Par les architectes, nous vont concevoir la future cuisine collective à partir de réemploi de matériaux issus des anciens laboratoires du bâtiment et donc elle prendra place là, sur cette aile centrale là. Donc lui il va venir expliquer un peu son truc, donc vous pourrez aussi vous balader, je pense que ça peut être cool. Moi, je vous fasse une intro du truc et puis après.
Le plus important, c'est de travailler sur les modalités de gouvernance future. Donc, on a dit dès le point de départ, à partir du moment où une valeur d'usage a été redonnée au bâtiment par les occupants, il faut que les occupants soient eux-mêmes décideurs de la manière dont ce lieu va fonctionner demain. Et c'est là qu'on re-questionne finalement la délégation de la responsabilité dans la gestion de nos équipements publics. Et ça, pour moi, c'est le travail qu'on est en train de faire, qui va nous lier à la ville, puisqu'on est en train de rédiger une convention d'occupation et un contrat d'objectif qui édicte un petit peu les missions qu'aura l'association, mais aussi la manière dont elle peut gérer ce patrimoine immobilier quelque part. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a monté dès le départ une assemblée des partenaires qui réunissait des représentants de la société civile autour de différentes pratiques et disciplines pour surtout ne pas fermer ce lieu autour d'une cooptation d'individus liés à un seul et même savoir-vivre, savoir-faire, savoir-être, projet, mais bien de dire on est capable de parler de sport comme on est capable de parler de soins, d'art, de culture, etc., etc., de rassembler des tranches d'âge et des personnes différentes qui ont des objectifs dans la vie différents. Donc on a créé une association collégiale à partir de ça qui, normalement, dont l'Assemblée Générale va se tenir au mois de juin prochain, qui va renouveler justement les membres des collèges, parce qu'on se dit que tous les ans et tous les deux ans, ces collèges doivent être renouvelés pour que d'autres aînés puissent se sentir la liberté de venir participer aux modalités de fonctionnement de Pasteur. Puisque c'est un lieu qui n'est pas attribué à une fonction prédéfinie, c'est un lieu qui va être toujours en mouvement et il faut absolument que sa gouvernance le soit aussi.
Il est couvreur, il a fait un job de ouf ici, donc ça peut être chouette de mélanger aussi, d'aller. N'hésitez pas, il aime beaucoup parler. Il raconte très très bien son métier. Donc allez le choper et on va s'en rendre du monde. Toi, si j'ai oublié, je sais pas, connais pas ton prénom.
Dimitri,
pareil, t'as bien parlé, Dimitri, voir.
Donc je suis Nicolas Chambon, je suis architecte à Rennes et sur l'hôtel Pasteur, je suis chargé de la rénovation de ce qu'on appelle le clos couvert, c'est-à-dire les façades, les couvertures, les menuiseries extérieures. Comme tout projet public, en fait, j'ai été sélectionné sur un appel à candidature de maîtrise d'œuvre par rapport à une annonce qui est passée par territoire, donc qui représente la ville de Rennes comme maître d'ouvrage, pour répondre sur la première phase seule. Il y a eu une deuxième annonce plus tard pour la deuxième phase. Voilà. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire sur la phase 1, qui est dans l'esprit Pasteur, puisqu'on est sur un ouvrage qui est un petit peu particulier, qui est on est en contact avec l'extérieur, donc il faut que ça tienne à l'humidité, que ça tienne aux intempéries, que ça dure le plus longtemps possible. Et donc, on a cherché à mettre le bâtiment en pérennité, sans forcément le rénover à neuf. Systématiquement. Par exemple, on n'a pas cherché à remplacer des pierres qui pouvaient être abîmées, mais qui ne présentaient pas de caractère dangereux ou de caractère embêtant pour l'avenir du bâtiment. On les a laissées en l'état, on les a simplement nettoyées, mais sans chercher à les rendre blanches comme elles étaient à l'origine. On n'a pas forcément... c'est surtout sur les façades, quoi. Rester dans l'esprit de laisser le bâtiment en l'état et de le faire vivre de sa propre vie de bâtiment sans vouloir faire quelque chose à neuf. Et aussi, dans la logique de Pasteur, il y a une autre chose qu'on a mis en place ou qu'on a essayé de mettre en place au maximum, c'est le réemploi des matériaux. Donc, soit des matériaux qui étaient issus de déposes de fenêtres ou de couvertures pour être réemployés sur d'autres sites, soit des matériaux qu'on a cherché à récupérer dans le cadre du projet, des bouts de plancher qu'on a voulu remettre.
D'accord.
Pour moi, l'hôtel Pasteur, c'est le lieu de l'école partagée. C'est-à-dire qu'on a effectivement le socle du bâtiment qui est l'éducation nationale, l'école pour tous, pour le plus grand nombre, dès le plus jeune âge, une école maternelle. L'école des Faupons, à laquelle on rajoute deux classes ici, elle passera de 6 classes à 8 classes. On va dire que dans les étages, l'hôtel Pasteur, c'est un peu le lieu de l'école hors les murs, l'école buissonnière, l'école autrement, où on apprend à faire en sorte que savoir savant et savoir faire se côtoient, que différents types de personnes se côtoient. Et quand on dit différents types de personnes, c'est des personnes qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir scolarité tout le temps épanouie. Et des personnes qui ont eu cette chance-là. On parle beaucoup d'élite perdue aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des études, mais qui se disent quel sens je donne à mon métier demain. Et c'est pas parce que j'ai eu cette formation que j'arriverai à me sentir bien dans les cadres classiques traditionnels de mon activité. Donc j'ai besoin de repenser cette activité par rapport à mes études. Donc c'est ce croisement-là qui permet des possibles. Donc ça, c'est l'école, c'est l'hôtel à projet Pasteur, en gros, qui permet ces croisements. Et à des gens qui ne sont pas visibles dans la ville, d'être rendus visibles dans ce bâtiment-là. Et ensuite, on a l'EduLab, qui est le lieu, on va dire, qui est le lieu de croisement entre l'école traditionnelle et institutionnelle. Et l'hôtel à projet Pasteur, qui est un lieu d'éducation et d'enseignement aux nouveaux usages du numérique pour aussi combler la fracture liée au numérique. Et donc, il sera positionné au premier étage du bâtiment, donc dans l'enceinte de l'hôtel à projet Pasteur. Et l'idée, c'est que donc Gwen Pacotte, qui est un peu la coordinatrice de ce projet, travaille de la même manière qu'on a fabriqué l'hôtel Pasteur, c'est-à-dire qu'elle teste déjà des usages pendant le chantier en vue de définir la programmation de l'EduLab. Donc, c'est assez intéressant de voir comment déjà l'hôtel Pasteur commence à faire école et faire des petits, c'est-à-dire qu'on pense la programmation de par la mise à l'épreuve du bâtiment par l'usage, et de ces usages on invente un projet auquel on n'a pas pensé à l'avance. Et donc l'EduLab va plus être aussi le lieu du faire pour toutes les tranches d'âge, et qui fera le lien entre les plus petits, l'école maternelle et l'hôtel à projet Pasteur.
Non, c'est pas là, attention, je veux pas tout, attention, je me perds. Là dans l'aile, couleur shining, là, vous verrez. C'est vraiment le futur EduLab. Et du coup, donc on a les anciens de l'école d'architecture qui ont fait travailler les étudiants d'école d'archi avec des collégiens sur l'aménagement futur de l'EduLab. Là, dans cette petite pièce, il y a marqué tout se récupère, c'est les matériaux qu'on récupère pour le réemploi du chantier, enfin sur le site même.